Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale que nous vous proposons chaque semaine. Nous sommes toujours au cœur d'une période très riche en événements musicaux. C'était le cas la semaine passée et c'est encore plus le cas pour la semaine à venir. Je vous ai déjà annoncé lors de notre précédent numéro la création mondiale de Voyage d'automne, l'opéra de Bruno Mantovani au Capitole du 22 au 28 novembre. Quatre représentations vont avoir lieu sur la scène lyrique toulousaine les 22, 24, 26 et 28. C'est incontestablement l'un des grands rendez-vous de la saison. Et pour le présenter, j'ai invité celui qui sait tout sur l'opéra en général et de l'opéra à Toulouse, Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux La Voix du Midi et Côté Toulouse. Il est venu en compagnie de l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, notre ami commun Serge Chauzy, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Tout est en place et tous sont en place pour cette émission que nous allons commencer en revenant sur l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à tous les deux. Merci d'être encore une fois au rendez-vous de Mélomanie. Mardi dernier, le 12 novembre, était donné le concert qui inaugurait la saison 24-25 des Arts Renaissants. C'était à Saint-Pierre-des-Cuisines où se produisait l'ensemble The Curious Bards, une formation bien française malgré le nom qu'elle porte. Nous y avons assisté tous les trois, mais je vais donner la parole à Serge en premier pour qu'il nous fasse part de ses impressions. Personnellement, je me suis régalé lors de cette soirée. Et vous, Serge ?
Ah, moi aussi, j'ai trouvé que c'était une soirée pétillante, vraiment avec beaucoup de vitalité. Il faut quand même rappeler que l'ensemble The Curious Bards, c'est-à-dire les bardes curieux, a été fondée en 2015. Elle réunit en fait 5 instrumentistes qui sont des amoureux des musiques traditionnelles du monde gaélique et celte, en particulier Irlande et Écosse. Et donc, ce soir-là, nous avions face à nous Alix Boisvert, qui joue du violon baroque et qui dirige, Sarah Van Oudenhove, la viole de gambe, Jean-Christophe Morel, le sistre irlandais, un instrument que j'avoue avoir découvert ce jour-là, Louis Capeille, harpe triple, et Bruno Harlet, qui joue de deux flûtes en fait. Et puis, une mezzo-soprane qui s'appelle Ilextra Platiopoulou, vous avez deviné qu'elle est d'origine grecque, se joint à eux pour explorer ce programme musical qui a un titre amusant, Indiscrétion, mais très inventif. Alors, on a eu droit d'abord à la présentation du concert par les acteurs eux-mêmes, les musiciens, qui sont à la fois pédagogues et humoristes, puisque vraiment c'était très vivant. Et puis les pièces instrumentales et vocales se sont succédées en alternant et en se complétant en quelque sorte. Moi qui m'a surpris, c'était la précision musicale incroyable de tous ces musiciens, d'autant plus qu'ils jouent de mémoire, sans partition. Donc ça ressemble à des improvisations, mais je crois qu'elles sont très travaillées en amont, étant donné le résultat. Alors, les danses traditionnelles, qui constituent en général des groupes de trois, et ensuite elles alternent avec des airs, des chansons, comme ils disent, avec une mezzo-soprano, très belle voix, avec une diction parfaite, un grand pouvoir expressif. Moi, j'ai en particulier aimé ce qu'elle a fait de la chanson à boire « One Bottle More ». C'était l'occasion de briller autant vocalement que scéniquement et la simulation de l'ivresse. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'air de la Péricole d'Offenbach. Je suis un peu grise. C'était un peu l'équivalent.
Elle a montré qu'elle avait aussi des talents de comédienne.
Ah oui, absolument, absolument. Et donc, tous les airs, à la fois écossais et irlandais, se sont succédés avec beaucoup de variété, de différence d'un air à l'autre. Certains étaient très poétiques, très doux, d'autres très virulents, très animés. Vraiment une belle soirée à laquelle on ne s'ennuie pas une seconde. Et le programme s'achevait sur une scène de chasse particulièrement animée avec une chanson écossaise Old Town. Et là, il y a eu une ovation incroyable puisque l'ensemble des musiciens ont donné 2 bis qui ont complété un peu cette riche exploration d'un répertoire qu'on ne connaît pas beaucoup chez nous, et donc que là, on avait l'occasion de découvrir.
On a rarement l'occasion, effectivement, d'entendre de la musique celtique, gaélique, je ne sais pas comment il faut dire. Alors, ce qui était très agréable aussi, c'est qu'ils étaient éminemment sympathiques et qu'ils ont présenté à peu près tous les morceaux et leurs instruments.
Et leurs instruments,
avec beaucoup d'humour et de naturel.
Oui, oui, oui,
ils se sont présentés les uns les autres. C'était une soirée comme on en voit rarement.
Ouais.
Et comme on en entend rarement, vous, Robert Pénavert, est-ce que vous avez apprécié ?
Bien sûr, j'étais à côté de vous et j'ai participé à l'enthousiasme général. Je trouve que, assez souvent, la série des Arts Renaissants a le don de nous présenter des ensembles comme ça, avec des musiques pas forcément très connues. Par exemple, le prochain concert des Arts Renaissants, ce sera un virtuose d'harmonica de verre. Donc, il ne sera pas seul, il sera accompagné. Mais enfin, voilà le travail formidable que fait Claude Scavazza à la tête de cette association des Arts Renaissants. Et encore une fois, il nous a fait découvrir vraiment un ensemble de musique. Alors tu disais qu'on ne la connaît pas beaucoup. Enfin, moi, je ne la connais pas du tout.
Très
clairement. Et ça a été un grand plaisir. Alors c'est vrai qu'on entend des sonorités, des rythmes que l'on peut retrouver dans certains films. Bon, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux. On retrouve un peu ces rythmes et ces sonorités. Mais enfin, ils sont arrivés et quand même, quand vous dites qu'ils font participer le public, ils nous ont même fait taper du pied.
Oui, pour un peu,
on se serait mis à danser.
Certains morceaux s'y prêtaient.
On avait envie, on avait des fouilles dans les jambes.
Il y avait beaucoup de gigues, notamment. Irlandaises ou écossaises, d'ailleurs.
Et tout ça fait avec une virtuosité instrumentale.
Oui, vraiment de très bons musiciens.
Formidable. Vraiment une grande soirée. Encore une au crédit des Arts Renaissants.
Oui, ça lance parfaitement cette saison 24-25. Et pour se replonger dans le concert des Curious Bards et pour vous faire entendre la belle voix d'Electra Platiopoulou, je vous propose d'écouter la chanson écossaise, celle-ci, Catherine Ogie. Catherine Ogie, chanson écossaise interprétée par Electra Platiopoulou, accompagnée par l'ensemble The Curious Bards. Ils ont donc ouvert la saison 24-25 des Arts Renaissants, dont le prochain concert est programmé mardi 3 décembre à 20h à l'église Saint-Jérôme, avec l'ensemble Il Gardellino, qui accompagne donc l'harmonica de verre de Thomas Bloch. L'autre concert sur lequel nous souhaitions revenir, c'est celui des Clés de Saint-Pierre, donné lundi, également à Saint-Pierre-des-Cuisines, par 5 musiciens issus des rangs de l'Orchestre National du Capitole. Le programme était intitulé « Lumière romantique » et il était constitué de 2 œuvres, un quatuor à cordes et un quintet avec clarinette. Serge Chosy était encore présent et il va pouvoir nous rappeler qui étaient les cinq musiciens qui se sont produits ce soir-là, avec beaucoup de bonheur, semble-t-il, en tout cas pour vous.
Absolument, vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de professionnalisme et de sensibilité. Et donc, il s'agissait du clarinettiste Victor Guémy, de la violoniste Jaewon Kim, qui est l'une des super solistes de l'Orchestre National du Capitole, une autre violoniste, Haruka Katayama, l'altiste Bruno Dubarry et la violoncelliste Aurore Dassès. Donc, ces cinq musiciens, en fait, non, ce n'est pas les cinq qui ont donné les deux œuvres.
Non,
la première œuvre, c'était un quatuor. Alors, un peu paradoxalement, pour un programme qui parle de romantisme, de Mozart. Et on voit pourquoi. Il s'agissait du quatuor à cordes numéro 15, qui est en ré mineur, qui fait partie des six quatuors dédiés à Haydn, c'est le deuxième, et c'est le seul qui est en mode mineur. Tous les autres sont en mode majeur. Tout simplement parce que c'est une musique, quand on l'écoute, assez crépusculaire, avec notamment dans le premier mouvement une espèce de tragédie qui apparaît en filigrane, et puis des éléments dramatiques qu'on n'entend pas dans ce type d'œuvre, en tout cas pas chez Mozart, et puis un dernier mouvement pour ma part, dont j'ai trouvé qu'il possédait des accents schubertiens, surtout dans la manière à la fois élégante et transparente que les quatre musiciens ont donné de ce quatuor. Vraiment un très beau moment, très raffiné, très beau. Et puis après l'entracte, c'était alors une œuvre qu'on avait déjà entendue, oui, dans ce même cadre avec un autre quintet pour clarinette, celui de Mozart. Et là, c'était celui de Brahms, une œuvre de fin de vie de Brahms, hein, qui est une sorte de discussion, d'échange entre l'instrument soliste, la clarinette et le quatuor à cordes. Alors là, on a enfin découvert le son, l'art, les phrasés du clarinettiste qui est Victor Guémy, qui joue la clarinette basse dans l'Orchestre National du Capitole, et là qui jouait de la clarinette normale. Et vraiment, il a surpris, étonné et charmé complètement avec un sens du phrasé, avec un mode expressif très mêlé, très lié avec l'ensemble des musiciens du quatuor, évidemment, avec... pour ma part, un moment, une sorte de miracle, c'est l'adagio, le deuxième mouvement de ce quintet, qui est à la fois lumineux et apaisé, et puis tout d'un coup inquiétant. Alors, c'est vraiment très bizarre, hein, avec un andantino très court et très animé, et un mouvement final qui ressemble à une tendre discussion entre les protagonistes. Donc, vraiment un moment formidable que le clarinettiste lui-même a tenu à présenter, puisqu'il est passionné de cette œuvre, et on le comprend, et donc il n'a pas hésité à dire que c'était la plus belle œuvre pour clarinette jamais écrite. Bon, vraiment un moment très particulier et très, très émouvant. Et puis, comme ils ont eu beaucoup de succès, ils ont joué un bis. Alors un bis hors du temps, en quelque sorte, ça s'appelle un nigun, c'est de la musique klezmer. Elle a pour titre « Soyons heureux ». Alors là, je ne vous dis pas, le clarinettiste a à faire des pirouettes. On s'étonne qu'il ne fasse pas un double saut périlleux-arrière en même temps. Oula. C'est incroyable, incroyable. C'était vraiment, vraiment une révélation. Donc bravo à eux, encore un autre très très beau concert.
Eh bien, on va écouter un extrait du premier mouvement Allegro du quatuor à cordes numéro 15 K421 en ré mineur de Mozart, la première des deux œuvres au programme du concert des Clés de Saint-Pierre lundi. Thank you. Le premier mouvement Allegro du Quatuor à cordes numéro 15 K421 en ré mineur de Mozart. C'était donc la première des deux œuvres jouées lundi par les musiciens des Clés de Saint-Pierre. Notez que le prochain rendez-vous de cette saison a lieu le lundi 6 janvier à 20h, toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec un programme intitulé Éclat cuivré. Ce sont donc les cuivres qui seront à l'honneur. Fin de cette première partie d'émission, petite respiration musicale et l'on se retrouve dans quelques secondes pour l'agenda de Mélomanie. Toujours avec Serge Chosy et Robert Pénavert. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie en compagnie de Serge Chosy et Robert Pénavert. Nous allons le consacrer largement à Voyage d'automne, le deuxième opéra de Bruno Mantovani, à découvrir à l'Opéra National du Capitole du 22 au 28 novembre lors de quatre représentations. Robert Pénavert va nous le présenter dans le détail, mais comme son livret est fondé sur un événement historique bien précis, survenu pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut d'abord qu'on rappelle de quoi il s'agit et pourquoi Bruno Mantovani a souhaité en faire un opéra, ce qui peut paraître surprenant, prime abord. Quel est donc ce fameux voyage et qui sont ceux à y avoir participé? On vous écoute, Robert.
Bien, je ne peux pas vous faire un cours d'histoire, mais j'ai eu la chance d'interviewer quasiment tous les protagonistes de cette création mondiale. Et donc, évidemment, je vais vous faire part de leurs réflexions. Alors, en fait, ce voyage d'automne est une commande. Alors, non pas le voyage d'automne, mais cet opéra est une commande du Théâtre du Capitole et donc de Christophe Gristy à Bruno Mantovani, voilà, il y a plusieurs années. Mais bien évidemment, dans ce genre de contact, c'est le compositeur qui choisit l'œuvre. Et Bruno Mantovani avait en tête depuis pas mal d'années une lecture qu'il avait faite d'un livre de François Dufay qui s'appelle « Voyage d'automne ». Alors, que raconte ce livre? Alors, ce n'est pas un roman, hein, c'est une chronique, c'est un récit parfaitement informé. C'est l'invitation qui a été faite à un certain nombre de célébrités littéraires françaises en octobre 1941 par Joseph Goebbels de participer à un congrès littéraire à Weimar, voilà, la ville de Goethe. Et donc il y avait à Paris le responsable de la propagande culturelle en particulier, qui était un jeune officier qui s'appelait Gerhard Heller, et donc qui a contacté un certain nombre d'écrivains, mais il faut reconnaître qu'ils n'ont pas été contactés au hasard. Ces écrivains cochent malheureusement toutes les cases concernant la collaboration, l'antisémitisme, le fascisme, enfin, et toutes ces choses-là. Que...
Oui, à des degrés divers et avec des motivations diverses, mais ça, on y reviendra sans doute.
Voilà. Alors, ces gens-là se sont précipités, évidemment. Ils ont dit, mais bien sûr. Alors, d'autant que... Évidemment, ça ne leur a pas échappé qu'en disant oui à l'occupant, ils pouvaient certainement avoir une certaine forme de rétribution, c'est-à-dire matériel, puis des postes, des honneurs, enfin, etc. Ce qui, a priori, n'a pas manqué d'être le cas. Voilà. Et donc, c'est un voyage qui s'est fait en train, Berlin, Weimar, etc. Et ils ont fait ça pratiquement tous ensemble. Mais il y a une autre histoire. Derrière cette histoire, il y a une autre histoire en définitive, qui fait un peu changer de ton à ce récit catastrophique. En fait, Marcel Jouandeau, grand écrivain au demeurant...
Mais à peu près tous ceux qui sont allés, c'étaient de grands écrivains. Voilà, non tout, seulement tout, à l'époque, mais même oui. Encore aujourd'hui, on pourra les lire. Question du style, en tout cas, ça vaut le coup de les lire.
Bien sûr. Alors, Brasiliac
si était on fait abstraction de leurs idées.
Brasiliac était plutôt un critique littéraire.
Et de cinéma aussi.
De très, très grand talent.
Absolument.
Bon, voilà. C'était pas à proprement parler un écrivain comme ceux que nous allons citer vraisemblablement après. Revenons-en à Marcel Jouandeau. Marcel Jouandeau était marié et vivait une double vie. En fait, il était homosexuel. Mais à cette époque-là, c'était un peu mal vu, pour ne pas dire très mal vu, et donc il le cachait, ça. Mais il est tombé en pamoison, littéralement, devant son cicérone, qui était donc Gerhard Heller. Gerhard Heller qui, évidemment, devait le savoir, bien sûr, et donc on a un peu profité. Alors, rien, autant dans les carnets secrets des uns que dans les carnets intimes des autres, il y ait eu une conclusion, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a eu une attirance véritablement érotique qu'on peut lire dans les carnets de Marcel Joindot. Il en était fou, il n'en dormait plus la nuit, il ne rêvait que de lui, et Marcel Joindot a été complètement fasciné, comme s'il avait été fasciné par un serpent. Et il ne s'est pas rendu compte, je crois, exactement de ce qu'il a fait. Voilà. C'était presque un pacte faustien. Alors, ce n'est pas parce qu'ils étaient Ave Mar, c'est pas.
Aujourd'hui,
c'est pas
on dirait qu'il était sous emprise.
Voilà. Oui, Eric, c'est un peu ça. Mais franchement, il a scellé un pacte avec le diable. Le diable, c'était Gerhard Teller, évidemment.
Et le régime qui était derrière.
Et qui représentait, bien évidemment, parce que Gerhard Teller, il avait beau raconter tout ce qu'il voulait, il représentait quand même le Troisième Reich. Et c'est pas pour rien qu'il était à Paris, voilà. Donc, il y a, dans cette histoire que je continue à qualifier de catastrophique, il y a une espèce de drame bourgeois, en définitive, qui, finalement, fait ressembler cet opéra à une tragicomédie.
Oui.
Donc, nous allons assister à ce voyage. Alors, ce n'est pas un voyage, on ne va pas être dans le wagon d'un train estampillé 1940, etc. Non, non, c'est un voyage complètement onirique, parce qu'en fait, ce qui a intéressé...
C'est les relations
autant Dorian Astor, qui est le dramaturge du Capitole, mais qui est également
l'auteur,
le librettiste de cet opéra. Dorian Astor était particulièrement bien placé. Alors, non seulement parce qu'il est, c'est un grand... Il est agrégé d'allemand, il a vécu une dizaine d'années à Berlin... Et c'est un philosophe, il a écrit une biographie de Nietzsche. Bon, quand même, c'est pas tout à fait...
Et puis, il est probable qu'il ait lu beaucoup des écrivains concernés par le voyage et qu'on va retrouver sur scène.
Voilà.
À travers ceux qui vont les incarner, bien sûr.
Alors, ces écrivains, dont il faut en parler...
Oui, il faut les citer, parce qu'il y a Joindot, les citer, mais voilà, il y en a six autres.
Alors, je vous donnerai leur date de naissance et de décès, parce que ça... Ça vous parlera, j'imagine.
Marcel Joindot, il a vécu très longtemps, bien longtemps après l'occupation, puisqu'il est mort en 79. Il a vécu jusqu'à l'âge de plus de 90 ans.
Marcel Joindot est né en 1888 et donc décédé pratiquement centenaire en 1979. Ramon Fernandez, lui, est né en 1894 et mort en 1944.
Oui, ben il y en a beaucoup qui n'auront pas
Jacques
survécu.
Jacques Chardonne, lui, il est né en 1884, mais il est mort, entre guillemets, quand ? 1968. Vous voyez le guillemet, ce qui veut dire. Alors, le plus célèbre, peut-être, est Pierre Drieux. De La Rochelle, bien évidemment. Hein. Lui qui est né en 1893 et qui est mort en 1945.
Oui, il s'est suicidé.
Voilà. Robert Brasillach, lui, bon, il est né en 1909 et... En 1945.
Fusillé en 1945. Fusillé. De Gaulle a refusé sa grâce.
Voilà, De Gaulle a refusé sa grâce. Donc voilà, ce sont des personnages qui ont eu une vie, je ne sais pas si on peut appeler une vie romanesque, mais enfin...
Si, en tout cas, ce sont des personnages romanesques, mais par la force de l'histoire.
Oui, mais alors...
Parce qu'ils ont été pris dans un événement...
Si j'ai failli employer le terme de romanesque, parce que c'est en fait lorsque Bruno Mantovani a pris conscience de ce que représentaient ces personnages, qu'il a compris quel était le potentiel dramaturgique,
oui.
Et quel était le potentiel scénique, et quel était le potentiel en termes de dialogue de ces personnages. Et voilà pourquoi il s'était mis en tête un jour de faire un opéra sur ce voyage d'automne. Et lorsque Christophe Christie, sans le savoir, lui en a offert la possibilité, puisque donc il ne savait pas du tout que Christophe Christie allait lui passer la commande d'un opéra. Mais ça a été immédiat. Pour lui, il n'y a pas eu discussion. Je veux faire un opéra là-dessus.
Parce qu'il y a matière là-dedans, à la fois à la tragédie grecque et au vaudeville bourgeois, comme vous le disiez très justement. Donc, il y a matière à faire un spectacle qui n'est pas du tout quelque chose de documentaire. Hein. Ça relève de la fiction, parce que les relations, bon, il y a des choses qui sont connues, puis il y en a d'autres. On peut romancer à partir de là.
Voilà. Je vous citerai deux ou trois mots des principaux interprètes qui sont très éclairants sur ce que nous allons écouter. Alors, on n'a pas cité malgré tout tous les personnages,
oui,
et ils sont tous importants. Donc, il y a Gerhard Heller, qui est né en 1909, qui est décédé en 1982 en France.
Oui, lui, il fait partie de...
Il est revenu s'installer en France.
S'enfuir et
C'était pas un soldat dans l'âme, quand même. Mais c'est, voilà.
Non, il était... c'est pas pour rien qu'il avait été désigné pour les relations avec les intellectuels français. Hein.
Voilà. Il y a un autre personnage. Tous ces personnages sont authentiques jusqu'à présent. Il y a un autre, il s'appelle Hans Baumann, qui est
compositeur,
né en 1824-1988, et qui va faire partie d'un trio sulfureux, je ne connais pas d'autres termes, entre Jouando, Heller et lui.
On n'en dira pas plus, mais on comprend un peu de quoi il retourne.
Tout en sachant que le spectacle est fortement déconseillé au moins de 12 ans, il faut le savoir. Bien. Alors, il y a un personnage qui ne porte pas son nom, mais qui ne trompe personne. C'est le personnage Wolfgang Goebbels, qui en fait, c'est Goebbels. Et je peux vous dire que la manière dont il est traité musicalement est à hurler de rire. Il a une grande scène quand il commence à arriver, avec des vocalises, c'est comme une diva. Il arrive au cours d'une grande soirée nazie, etc. C'est comme une diva qui chante son grand air à l'entrée.
Pardon. Mais c'est une voix de contre-ténor, d'ailleurs.
Oui, c'est une voix de contre-ténor.
Voilà, oui.
C'est pas pour rien.
C'est pas pour rien.
Voilà. Et puis alors, il y a une création typique, c'est le personnage de la songeuse. Voilà, qui est chantée par une... Païse, comme on dit chez nous, puisqu'elle est native d'Albi, qui s'appelle Gabrielle Philipponnet. Voilà. Alors, elle chante en allemand. Tout ça, évidemment, est surtitré. Et vous verrez comment ces derniers mots, en définitive, elle fait poindre une lumière qui nous amène vers un deuxième monde, comme elle le dit, vers un avenir meilleur. Bon, mais ça, c'est une création pure, hein, c'est-à-dire elle n'existe pas dans la réalité. Mais en même temps, chaque fois qu'elle intervient, elle intervient à plusieurs reprises, trois autant que je me souvienne, mais elle intervient comme c'est un ballon d'oxygène.
Alors, on va parler évidemment des interprètes.
Oui.
De la metteur en scène, je ne sais pas comment il faut dire aujourd'hui, metteur en scène, la metteuse en scène, peu importe. Mais on va écouter, parce qu'on n'a pas évidemment la musique de cet opéra, puisqu'il n'est pas encore créé, mais on a un extrait de l'opéra précédent de Bruno Mantovani, Akhmatova, dont le livret avait été écrit par Christophe Gresti d'ailleurs, créé en 2011 à l'Opéra de Paris. On écoute un extrait, a priori ça devrait donner une petite idée de ce que vous allez entendre sur scène entre le 22 et le 28 novembre.
Thank you.
Un extrait d'Akhmatova, opéra de Bruno Mantovani, pour vous donner une petite idée de la musique que l'on pourrait entendre lors de la création mondiale de Voyage d'automne, donc à découvrir du 22 au 28 novembre lors de 4 représentations à l'Opéra National du Capitole, dans une mise en scène de Marie-Lambert Le Bihan. Alors Robert, peut-être déjà un mot sur la mise en scène et ce qu'a pu vous en dire Marie-Lambert Le Bihan, que vous avez interviewé pour Culture 31.
Et pour Classique Toulouse.
Et pour Classique Toulouse d'abord. Vous voilà, avez raison. Voilà. Soyons précis.
Alors écoutez, j'ai là sous les yeux un extrait que j'ai choisi pour vous le communiquer. Donc c'est elle qui parle. Comment traduire sur un plateau cette absence totale d'examen de conscience? Parce qu'en fait, ces écrivaines ne sont pas posées trop de problèmes de conscience.
Oh bah, il y en a certains comme Brasillach, si vous voulez, quand on voit ce qu'il a pu écrire, notamment ce fameux texte « N'oubliez pas les petits oui. » lorsque les Juifs sont déportés oui. de Drancy vers l'Allemagne, et il dit « Non, n'oubliez pas les petits, les enfants. » Oui, bon, lui, on sait très bien ce qu'il pensait. Lui, ah, tout lui, à fait. Il est cas de conscience, bon.
Et donc, Marie-Lambert Le Bihan, de poursuivre, « J'espère que nous arrivons à donner ce sentiment d'ingénuité coupable et de terrible ambiguïté. » Ce voyage d'automne est un trajet autant intellectuel qu'émotionnel, parfaitement inédit. Voilà. Donc en fait, on est dans un milieu, alors ne vous attendez pas à une reconstitution historique avec des drapeaux nazis, des croix gammées partout. Il y a juste des costumes qui permettent de faire la différence entre les soldats et les civils. Oui, oui. Dont les écrivains, hein. Voilà. Mais ça s'arrête là. Nous sommes dans un cauchemar éveillé. Donc, il n'était pas question non plus, parce que c'était très difficile, évidemment, de créer tous les lieux de ce voyage sur scène, parce qu'ils se sont arrêtés dans plusieurs villes, etc. Donc, ça, c'était très difficile. Donc, elle a opté pour une vision, je le dis, je le répète, très cauchemardaire. Elle est dans l'idée, dans la pensée. Qu'est-ce qui est arrivé dans la tête de ces écrivains pour qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passait? Et ce qu'elle a cherché à souligner, ce sont les interactions entre ces écrivains et Gerhard Heller, évidemment. Hein. Voilà, mais comment, avec ce qui se disait, ce qui se racontait, mais comment ils ne se sont pas rendus compte? Alors, il y a une scène terrible, parce qu'en fait, tous ces écrivains, à la fin, ont dit « mais nous, on n'a rien vu ». Voilà.
On ne savait rien.
On ne savait rien.
On ne savait pas ce qui se
passait. Et en fait, le livret a pris l'option de dire non, il le savait, et il y a une scène terrible, voilà, je ne sais pas si bon, je vous le
non,
dis, mais...
Non, ben non, faut...
Voilà, bon, mais face à laquelle il se trouve devant le cauchemar en train de se passer.
Oui, après, le déni, ça existe aussi.
Hein. Mais ça, c'est une option de l'opéra et des créateurs. Oui.
Alors, les interprètes,
ben évidemment, le premier rôle, c'est Marcel Joindeau. Alors, tout simplement, comme me dit Dorian Astor, il me dit, voilà, dans tout opéra, il y a une histoire d'amour. Et Marcel Joindeau et Gerhard Heller étaient parfaits pour jouer cet emploi-là. Voilà pourquoi c'est le premier rôle. Et donc, c'est Pierre-Yves Pruvot.
Oui, qu'on connaît bien, au
Capitole. Que nous connaissons bien, oui. Maintenant à tout, qui est un des très, très grands barytons dramatiques français, et qui me disait, je le cite, « C'est terrible, mais j'ai le sentiment que l'histoire se répète et que nous retournons à cette époque-là. Tout ce qui se passe dans le monde nous montre que les totalitarismes prennent le pas. » Alors, ce que je dois dire, c'est que toutes les personnes que j'ai interviewées, metteurs en scène, compositeurs, chanteurs, Christophe Gristier également, tous sont quand même bousculés par cet opéra. Ils ont accepté le deal, si on peut dire, de manière anglo-saxonne.
De s'y impliquer et pour les interprètes, de jouer
parce qu'en fait,
des gens qu'on peut voir comme des salauds.
Comme me dire Emiliano González Toro, qui est le
Ramon
rôle
Fernandez.
De Ramon Fernandez.
Ah oui, ça tombait sous le sens.
Voilà, parce qu'il me dit, moi, je n'ai pas vécu cette époque-là.
Il est d'origine chilienne, lui, hein,
en plus,
je crois.
J'étais suisse.
Oui, mais il est d'origine chilienne, hein, c'est ça. Hein.
Mais il est d'origine chilienne.
Eh ben oui.
Et j'ai beaucoup entendu parler de l'époque Pinochet,
évidemment.
Bien évidemment.
Évidemment. Ramon donc, Fernandez était d'origine mexicaine, lui, par son père. Sa mère était française.
Voilà. Alors que tous, y compris le compositeur, avant qu'il n'ait lu le livre de François Dufay, aucun n'était au courant de cet événement. Aucun. Il m'a dit, mais nous, on ignorait.
Non, ça, c'est étonnant, parce que c'est quand même assez célèbre, enfin, pour ceux qui s'intéressent à les littératures de cette époque. L'année d'après, il y a eu le même voyage pour les comédiens. Enfin, le même.
Voilà.
Un voyage des comédiens.
Et pour des artistes
auquel
de cinéma,
avait participé, hein. Daniel Darieux, par exemple. Elle était toute jeune à l'époque. Hein. Voilà.
Et il ajoute Emiliano González Toro. Alors je tiens à le citer parce que c'est très important. Il dit « Il est important de ne pas oublier pareils événements et d'en perpétuer le souvenir. C'est ce que l'on appelle le devoir de mémoire. » Et c'est pour ça que cet opéra, qui surtout n'est pas un nouveau tribunal de l'histoire, parce que comme le dit Christophe Gristy très justement, ils ont tous été jugés.
Absolument. Donc on n'a pas l'ont payé de leur vie d'ailleurs, là-dessus. Le jugement.
C'est tout simplement cet opéra, c'est un miroir de l'histoire et on n'a pas l'ignoré. Demain, pourquoi on jouerait plus André Chénier de Giordano ? Parce que s'il parle de la Révolution française, bon, il faut pas faire les aveugles là-dessus. Et c'est pas mal, je crois, effectivement, que de temps en temps le rappeler. Et il continue, Emiliano González Toro, en disant « Un grand compositeur d'aujourd'hui nous livre une histoire d'hier dans un élan patrimonial, patrimonial, c'est un terme important, hein, qui est celui de l'humanité, avec ses défauts, ses faiblesses et ses beautés. C'est à ce sacre artistique que nous invite Christophe Gristy et le Capitole de Toulouse. » Voilà.
Alors, donnez les autres Alors, interprètes.
Donc, il y a...
Chardonne, c'est Vincent Le Texier.
Chardonne, c'est Vincent Le Texier. Ensuite, pour les interprètes de rôle français, il y a
Drieux, c'est Yann Beron.
Yann Beron qui fait Pierre Drieux de La Rochelle, Jean-Christophe Lagnès qui fait Robert Brasillach. Voilà pour les personnages
voilà,
français.
Et pour les Allemands.
Mais après, pour les Allemands, il y a Stefan Genz qui fait le diable tentateur, donc Gerhard Heller. Et ensuite, il y a Enguerrand de Hiss qui fait le rôle de Hans Baumann. Et c'est, comme le disait Serge tout à l'heure.
Il y a le physique de l'emploi en plus, Enguerrand de Hiss.
Je ne sais pas si c'était hors micro ou si c'était enregistré, mais dans tout le cas, je le répète. C'est William Shelton qui est haute-contre.
Oui, exactement.
Contre-ténor, qui joue le rôle de Wolfgang Goebbels avec.
Alias Goebbels.
Cette espèce d'entrée complètement parodique, je pense que c'est parodique.
Et voilà. Donc dans la fosse, il y aura Pascal Roffé.
Et c'est Pascal Roffé qui connaît très bien le répertoire de Bruno Ventovani.
C'est lui qui dirigeait Akhmatova lors de la création à Paris en 2011. Donc on est
Absolument.
Entre gens qui se connaissent bien.
Un dernier mot très particulier pour dire que Marie-Lambert Le Bihan a souhaité avoir une équipe de production étrangère. Alors je lui ai demandé pourquoi. Parce qu'elle a dit « je ne voulais pas des Français ». Pour ne pas qu'il y ait déjà un biais.
Oui.
Je voulais des personnes qui ne connaissent pas du tout cette histoire dont j'ai eu un vrai travail pédagogique. Je leur ai tout raconté de la manière la plus factuelle possible, de manière à ce qu'ils laissent travailler leur imaginaire. Voilà. Oui. Mais je ne voulais pas d'un biais déjà fait par des Français.
En tout cas, bon, tout ça s'annonce passionnant.
Il suffit
d'avoir bien écouté tout ce que vous nous avez dit. Moi, on a hâte de découvrir ça sur scène. Alors, il y a un autre rendez-vous à ne pas manquer au Capitole. Dès ce mercredi 20 novembre à 20h, Robert, on va revenir à des choses un peu plus tranquilles. Il s'agit du récital que donne le baryton, grand baryton français, Stéphane Degout, accompagné par Alain Planès au piano. Il présente un programme de mélodies françaises et de leaders allemands.
Voilà, absolument. Alors,
on reste encore dans le franco-allemand. Hein.
On va pas présenter Stéphane Degout aux mélomanes toulousains, ça serait lui faire injure et leur faire injure.
Il suffit de rappeler son vote sec.
Son vote sec.
Et récemment, Onéguine.
Eugène Onéguine. Ah, ouais. Bon, voilà. Et j'espère que nous le reverrons bientôt à nouveau.
Bon, j'en doute pas.
À Toulouse. Voilà. Oui. Mais quand il ne vient pas en production, Christophe Gristy tient à tout
récital.
Prix à le faire venir en récital.
Mais il a raison.
Et c'est un grand bonheur.
Bah, oui.
D'autant que c'est un récitaliste très très grand talent, un diseur formidable, un musicien extraordinaire, un styliste, comme je ne sais pas s'il y a l'équivalent en France. Hein,
je ne suis pas sûr.
Dans sa tessiture.
Et un grand accompagnateur, Alain Planès.
Avec Alain Planès,
alors, il y a
absolument.
Alain Planès, oui, bien évidemment.
Magnifique piano.
Avec qui il collabore depuis longtemps. Hein.
Donc, Gabriel Fauré, Henri Duparc sont au menu français, si l'on peut dire. Mais il y a deux cycles très importants. C'est les quatre chants sérieux de Brahms et les Liederkreis de Schumann.
Alors, formidable.
Faut-il les présenter? Je ne crois pas. Hein, mais bon,
voilà. Non, mais
c'est un superbe programme.
Ça veut dire simplement un programme unique, merveilleux, fantastique.
Fauré et Duparc dans la mélodie française, c'est quand même deux musts, je trouve, moi. Ouais. Et puis Brahms et Schumann.
Et dans ces cycles-là.
C'est un très bon programme avec en plus un chanteur exceptionnel. Voilà. Accompagné par Alain Planès.
Et c'est la seule fois que nous l'entendrons cette saison.
Eh bien, c'est déjà pas mal de l'avoir une
voilà.
fois.
Voilà, hein. Non, il faut s'y précipiter.
Oui, je suis bien d'accord. Alors, pour illustrer le programme de ce récital, je vous propose d'écouter Stéphane Degout chanter une mélodie de Gabriel Fauré, Adieu, tirée du cycle Poème d'un jour. Il est accompagné, comme il se doit, par Alain Planès.
tu m'ervite la rose déclose et les frémons tout dit après des prés les longs soupirs les bien-aimés fumés. On voit dans ce monde léger changer plus vite que des flots des grèves nous rêvent plus vite que la givre en fleur nous cœurs. À vous l'on se croyait fidèle, cruel. Hélas, les plus longs amours sont courts, et je dis en quittant vos charmes sans larmes, presque au moment de mon aveu. Adieu.
Stéphane Degout, accompagné par Alain Planès, chantait « Adieu, mélodie » de Gabriel Fauré, composée sur un poème de Charles Grandmougin, tiré du cycle « Poème d'un jour ». Le baryton et le pianiste donnent un récital ce mercredi 20 novembre à 20h à l'Opéra National du Capitole. Encore un autre grand rendez-vous cette semaine, samedi 23 novembre à 20h à la Halle aux Grains cette fois-ci, où l'Orchestre National du Capitole est en concert avec Tarmo Peltokoski à sa tête. Autant dire que tout le monde attend avec impatience cette soirée dirigée par le jeune chef finlandais, devenu en moins d'un an la coqueluche du public toulousain. Serge va nous présenter le programme de ce concert qui a été partiellement modifié puisqu'il y a eu un changement de soliste.
Oui, initialement il s'agissait de Patricia Kopaczynskaya, qui devait être la soliste, une violoniste, hein, du concerto pour violon et orchestre numéro 1 de Shostakovich. Et puis, en raison de problèmes de santé, elle a dû annuler sa venue. Et donc, nous n'entendrons pas Shostakovich, mais le concerto pour violon en ré majeur de Tchaïkovski. Et le soliste en sera Christy Giesi, donc le super soliste de l'Orchestre National du Capitole. Et donc, il sera le soliste de ce concerto, l'un des plus populaires, au sens noble du terme, de tout le répertoire des concertos romantiques pour violon, évidemment.
Mais je suis certain qu'il fera merveille l'exécution de ce concerto de Tchaïkovski.
Un concerto pourtant, à l'époque, déclaré impossible à jouer.
À jouer.
Et puis, le reste du programme n'est pas modifié. Et il associe deux grandes figures de la deuxième école de Vienne, Alban Berg et Arnold Schönberg. Et alors, la sonate numéro 1 pour piano, initialement, d'Alban Berg, sera proposée dans une orchestration du compositeur néerlandais Theo Verbe. C'est une œuvre encore un peu néo-romantique, hein, d'Alban Berg. Les deux œuvres, d'ailleurs, qui suivent sont des œuvres de jeunesse, hein, des compositeurs, puisque la dernière œuvre qui achèvera le concert, ce sera La Nuit Transfigurée, Die Verklärte Nacht, donc d'Arnold Schönberg, qui initialement était composée pour sextuor à cordes. Une œuvre manifestement expressionniste comme caractère, inspirée d'un poème extrait du recueil « La femme et le monde » de Richard Demel, qui était un ami du musicien. Alors, il y a eu plusieurs transcriptions, notamment pour orchestre à cordes, puis une nouvelle révision en 1943. Donc, nous entendrons évidemment la version pour orchestre qui sera donnée donc, sous la direction de Tarmo Peltokoski.
Nous allons pouvoir écouter Christy Giesi dans une interprétation du concerto pour violon de Tchaïkovski. Il joue ici le début du premier mouvement Allegro Moderato. Thank you. Le premier mouvement Allegro moderato du concerto pour violon de Tchaïkovski, une version avec Christy Jessy, qui est donc le soliste invité, si l'on peut dire, pour jouer cette même pièce samedi à la Halle aux Grains avec l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tarmo Peltokoski. Ce dimanche 24 novembre à 17h à Saint-Pierre-des-Cuisines, je rappelle que la saison Toulouse Guitare a programmé le guitariste brésilien Yamandu Costa pour une grande première à Toulouse. Nous vous l'avions annoncé il y a 2 semaines dans cette émission. Je vous annonce d'ores et déjà que ce concert est complet. Tant mieux, après tout, ça veut dire que le succès est au rendez-vous et on est bien content pour Toulouse Guitare. Et puis mardi 26 novembre à 20h à la Halle aux Grains, le cycle des grands interprètes accueille Renaud Capuçon, mais le célèbre violoniste est venu en bonne compagnie avec 4 musiciens, Serge. Je vais vous laisser nous les présenter ainsi que le programme qu'ils vont jouer, où l'on retrouve un certain Gabriel Fauré, toujours à la fête en cette fin d'année 2024.
Ah mais oui, c'est bien normal. Mais cette fois, c'est pour un concert de musique de chambre, puisqu'il vient avec Paul Zientara, alto, avec Maxime Quenesson, violoncelle, Lorraine Campet, contrebasse, et Guillaume Bellom, piano. Alors, ces 5 musiciens vont donner, d'une part, en quatuor, le quatuor pour piano et cordes numéro 2 de Gabriel Fauré. Et puis ensuite, alors l'une des plus célèbres pièces de musique de chambre de Schubert, le quintet en la majeure, la truite. Elle se déguste avec d'excellents artistes, cette truite.
Oui, oui, tous ces musiciens que vous avez cités sont jeunes, hein, ils sont tous très jeunes, ils font partie de cette société de production qu'a créée Renaud Capuçon qui s'appelle Beaussoir Productions, qui met le pied à l'étrier à beaucoup de jeunes musiciens qui se produisent avec lui, dont les 4 que vous avez cités. Manon Galli, par exemple, notre petite violoniste toulousaine très talentueuse, fait partie aussi de la bande de Beaussoir Productions. Nous allons pouvoir écouter Renaud Capuçon dans une interprétation du quatuor pour piano et cordes numéro 2 opus 45 de Gabriel Fauré, mais avec son frère Gauthier au violoncelle, le Toulousain Gérard Cossel alto et le très regretté Nicolas Angelich au piano. Il s'agit du premier mouvement Allegro molto moderato. Le premier mouvement Allegro molto moderato du quatuor pour piano et cordes numéro 2 plus 45 de Fauré, l'une des 2 pièces au programme du concert que donnent Renaud Capuçon, Paul Zientara, Guillaume Bellom, Maxime Quenesson et Lorraine Campet à la Halle aux Grains, mardi 26 novembre à 20h dans le cadre du cycle des grands interprètes. Très rapidement, Serge, un mot sur le festival Bypass.
Voilà, alors le forum Bypass, il souffle ses 10 bougies, ça fait 10 ans qu'il existe. Il est mené par le studio Eol, avec Pierre Jodlowski et Bertrand Dubedoux, les 2 directeurs artistiques. Et on a toute une série de manifestations qui débutent le vendredi 22 novembre, au Ring, la scène périphérique Le Ring. Donc il y a un concert le 25 novembre également, le 28 aux abattoirs, cette fois il s'agit d'un ciné-concert, puis le 30 novembre et surtout le 3 décembre, puisque à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines aura lieu le concert intitulé Nuit à Dieu, avec le transcontemporain sous la direction de Luca Sonzoni et des œuvres marquantes de Jean Sibelius, Edith Cana de Chizy et celle qui est la, en quelque sorte la marraine décédée de ce festival, c'est Kaija Saariaho, la grande compositrice
finlandaise
qui est décédée très récemment.
L'an dernier, je crois.
Donc voilà, il y aura également des masterclass, des ateliers et des rencontres, donc un beau festival Bypass.
Voilà, pour le forum Bypass, alors pour le concert de Renaud Capuçon, avec donc les quatre musiciens qui vont l'accompagner le mardi 26 novembre à 20h pour les grands interprètes. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Je ne l'avais pas précisé, je rappelle que la création mondiale de Voyage d'automne, l'opéra de Bruno Mantovani, a lieu les 22, 24, 26 et 28 novembre à l'Opéra National du Capitole. C'est un véritable événement parce que ce n'est pas si souvent qu'on a une création mondiale au Capitole. Je vous invite donc à réserver et acheter vos places sur le site www.opera.toulouse.fr. C'est aussi à cette adresse qu'il faut vous connecter pour faire vos réservations si vous voulez assister au récital du baryton Stéphane Degout, accompagné par Alain Planès au piano, ce mercredi 20 novembre à 20h, toujours à l'Opéra National du Capitole. Et puis enfin, concernant le concert de l'Orchestre National du Capitole, ce samedi 23 novembre à 20h, à la Halle aux Grains, dirigé par Tarmo Peltokoski, et avec Christine Jessy en soliste lors du concerto pour violon de Tchaïkovski. La billetterie est en ligne à l'adresse www.onct.toulouse.fr. Je remercie Serge Chausier et Robert Pénavert qui ont grandement contribué à l'animation de cette émission à mes côtés. Merci également à Christophe Aubry, le réalisateur de ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et je n'oublie pas de remercier nos auditeurs toujours fidèles à notre écoute. Excellente semaine musicale à tous.